Je vais lire Hébreux chapitre 11, les versets 1 à 3. C'est bien ça ? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de culte.
Joie pour moi d'être ici ce matin, après avoir beaucoup entendu parler de cette église, je peux enfin vous voir et voir aussi ce que le Seigneur fait parmi vous. C'est très sympathique et c'est vraiment un plaisir pour moi. Et c'est vrai que c'est assez rare de rendre visite à une église, de voir autant de visages connus. Je pense à peu près la moitié au moins des personnes ici, je les connais. J'ai même aperçu au moins une ou deux personnes qui sont des paroissiens actuels de la rue de Sèvres. Alors c'est gentil d'être venu me soutenir ce matin. et je voudrais aussi vous remercier parce que vous nous avez prêté votre pasteur cette année dans le cadre des cours Apollos. C'est une formation qui a lieu à la rue de Sèvres et Trevor participe au niveau de l'enseignement de la doctrine dans le cadre de ce cours. Et puis également, dans le groupe des jeunes adultes, nous avons beaucoup bénéficié de David et de Lovely, qui cette année étaient tous les deux animateurs d'études bibliques. Et donc c'était vraiment aussi une joie et ça permet aussi de garder ces liens avec vous. Je me souviens d'un cours de philo en terminale. Je crois que le bac est terminé là, ou en tout cas, oui, encore quelques épreuves peut-être pour quelques malheureux. En tout cas, je me souviens moi de mon année de terminale et d'un cours de philo. J'étais en terminale littéraire, donc il y avait énormément de philosophie. Et une élève a posé la question à notre prof, mais finalement ça veut dire quoi avoir la foi ? Alors là, bien sûr, si j'avais été courageux et audacieux, j'aurais dit quelque chose, mais j'ai rien dit. Bon, c'était quand même à la prof de répondre aussi. La prof a réfléchi un instant et a fini par dire ben, « Je ne sais pas, il faudrait mieux poser cette question à quelqu'un qui a la foi. » Là encore, c'était l'occasion, mais je n'ai rien dit. Mais j'ai repensé à cet épisode. Et en fait, il m'est arrivé assez souvent, et c'est sans doute le cas pour vous aussi, que des non-croyants me disent « Mais c'est très bien si tu as la foi. » C'est très bien. Moi, je ne l'ai pas. Donc, toi, tu as la foi, moi, je ne l'ai pas, chacun son truc. Si ça peut te faire du bien, tant mieux. Et finalement, c'est vrai qu'il y a cette idée très courante que la foi, c'est une façon de voir les choses, une façon de voir qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est un peu que voilà, ça s'attrape, ou bien c'est naturel, quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors, je peux comprendre ces réactions dans un sens de la part de personnes qui ne croient pas et qui ont du mal peut-être à complètement se mettre à la place de quelqu'un qui croit, bien sûr. Mais il est clair que pour la Bible, la foi, c'est beaucoup plus que simplement quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, une façon de voir les choses. Et dans le texte qui vient d'être lu, l'auteur anonyme de la lettre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux est une lettre écrite quelques décennies après la mort et la résurrection de Jésus, on ne sait pas qui en est l'auteur, c'est un peu mystérieux, mais on sait que c'est quelqu'un qui faisait partie de l'entourage des apôtres, vraisemblablement de l'entourage de l'apôtre Paul, qui a écrit aussi d'une certaine manière sous l'autorité de l'apôtre Paul. Et donc cet auteur de la lettre aux Hébreux nous propose une définition de la foi. Et il nous dit ceci, la foi, c'est la réalité. Alors, j'ai une version légèrement différente, mais c'est bien en fait, ça permet une certaine complémentarité. Je vais lire donc dans la Nouvelle Bible Second, la version que j'utilise. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. La réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Et dans ce qui a été lu tout à l'heure, ça allait tout à fait dans le même sens avec des mots un petit peu différents. Cette définition est surprenante, dans un sens. Elle l'est parce que justement, la vision prédominante de la foi aujourd'hui, c'est l'idée de quelque chose d'un peu insaisissable. Quelque chose qu'on ne pourrait pas exprimer, c'est une sorte de petite lumière intérieure que j'ai et qui me dit que Dieu existe. C'est vrai que la foi n'est pas toujours facile à exprimer. Mais ce qui est clair, c'est que la foi, pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ça repose sur la réalité. La réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. C'est quand même des termes forts. Alors je voudrais qu'on réfléchisse pendant quelques minutes à chacune des trois affirmations que l'on trouve dans les versets 1 à 3 de notre texte. Je les ai résumées chacune par une petite phrase. Et en relisant un peu dans le train ce matin, pour la deuxième, je me disais non, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de changer. Donc je pense que ça résume quand même à peu près la pensée de l'auteur. Je parle pas de la partie elle-même, hein, je parle du titre là. La foi repose sur la réalité, premièrement. Deuxièmement, la foi change la vie. Et troisièmement, la foi discerne le Créateur. Donc, la foi repose sur la réalité, la foi change la vie. La foi discerne le Créateur. Premièrement, donc, la foi repose sur la réalité. Finalement, on pourrait dire, la foi, c'est croire en ce qui est vrai. Alors, ça paraît un peu provocateur comme définition, mais je pense que c'est cette pensée, en fait, que défend l'auteur de la lettre aux Hébreux. Dans notre société qui est tellement influencée par la méthode scientifique, on a tendance à dire, et c'est même le cas, finalement, pour beaucoup de chrétiens, que la foi, ça concerne des choses invérifiables. C'est des choses qu'on ne pourrait jamais démontrer, mais bon, ce qui donne un sens à notre vie, on en est convaincu, mais c'est complètement invérifiable. Alors que les choses soient claires, il ne s'agit pas du tout pour moi d'avoir un discours anti-scientifique, je pense que la science est une très bonne chose, qui a permis des progrès extraordinaires, qui nous aide à comprendre la création, justement. Mais la méthode scientifique n'est pas la seule façon de parler de la vérité, elle n'a pas le monopole de la vérité. Il y a des choses qui sont vraies et qui pourtant ne relèvent pas de la science. Et je pense qu'en fait, ça, tout le monde le sait, au fond. Par exemple, si vous aimez quelqu'un, que ce soit un conjoint, que ce soit un parent, que ce soit un ami, ce n'est pas une réalité scientifique. Vous ne pourrez pas le démontrer par une équation ou par une explication scientifique. Et pour autant, c'est vrai. Alors on pourrait répondre, oui, mais ça c'est subjectif, c'est dans le ressenti, etc. Mais ce n'est pas seulement subjectif. Ce n'est pas quelque chose qui n'est vrai que pour vous. Par exemple, si j'aime mes parents, c'est le cas, hein, j'aime mes parents et que mes parents m'aiment, je pense que c'est le cas aussi, il y a une réalité objective qui est vécue entre eux et moi. Ce n'est pas seulement une idée qui est dans ma tête et puis bah, ça tombe bien parce qu'ils ont la même idée aussi, mais c'est une réalité qui est vécue entre nous. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait observer par la science. Alors je ne prends que cet exemple de l'amour humain, mais je pourrais en prendre bien d'autres. Et ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux dans ce verset 1 du chapitre 11, c'est que la foi repose sur une réalité, sur quelque chose qui est réel et quelque chose qui est vécu. Quelque chose de réel et de vécu. Ce n'est pas simplement un sentiment qui me réchauffe le cœur, c'est croire en ce qui est réel. Et en fait, si on réfléchit un instant, le fait de dire « je crois en Dieu », bah c'est exactement la même chose que de dire « Dieu existe ». Parce que si je ne suis pas prêt à dire que Dieu existe, c'est qu'en fait, je ne crois pas vraiment en Dieu. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose de neutre. Ce n'est pas quelque chose qui me concerne moi seul. C'est vrai pour moi, mais ce n'est peut-être pas vrai pour toi. Mais c'est affirmer quelque chose qu'on estime vrai dans l'absolu. Et donc la foi, en fait, ça revient à prendre position. Ça revient à dire ce qui est la vérité. Alors bien entendu, tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, je suis absolument convaincu, je sais que c'est la conviction dans cette église aussi, que Jésus-Christ est véritablement ressuscité, historiquement, corporellement, il est revenu de la mort à la vie, dans un corps nouveau. Il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui ne croient pas à cela. La majorité, sans doute, de nos contemporains, qui vont dire « mais non, c'est impossible !» À la limite qu'il y ait une expérience de vie spirituellement, etc., pourquoi pas, mais qu'il soit réellement ressuscité d'entre les morts, c'est pas possible. Et donc là, il y a un désaccord sur le fond, il y a un désaccord sur ce qui s'est effectivement passé. Et c'est bien donc de la réalité que nous débattons. Soit Jésus est ressuscité historiquement, comme nous le croyons, pour la majorité d'entre nous, je le pense, soit ce n'est pas le cas. La question est de savoir ce qui s'est réellement passé. On ne peut pas simplement dire « pour moi c'est vrai, mais peut-être que pour toi c'est pas vrai ». Imaginez qu'on dise ça par exemple à propos de la Révolution française. Oui, pour moi c'est vrai. Mais bon, si tu penses autrement, alors pour toi, c'est pas vrai. L'important, c'est ce que tu ressens au fond de toi. Vous allez dire, mais attendez, on est en train de parler là d'un événement historique. Soit il y a eu une révolution française, soit il n'y en a pas eu. Il y en a eu une, je pense, en l'occurrence. Donc c'est bien la réalité des choses qui importe. Et croire en Jésus-Christ, c'est croire que Jésus-Christ est bien ce qu'il a affirmé être. Or, si c'est vrai, ça a des conséquences pour tout le monde et pas seulement pour nous qui croyons. Alors bien sûr, vous me direz, avoir la foi, ce n'est pas la même chose que d'assister à un événement. C'est vrai, la foi, d'ailleurs, l'auteur le souligne, c'est justement croire aux réalités auxquelles on n'assiste pas directement. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Mais avoir la foi, c'est croire que ce que je ne vois pas est quand même vrai. Avoir la foi, c'est être convaincu que ce que j'espère, ce n'est pas seulement un espoir fou et vague, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, qui se passe vraiment et qui va vraiment se passer. Tout à l'heure, nous avons passé, je ne sais pas, 20-30 minutes à chanter, entre autres, à prier, en nous adressant à qui ? À Dieu. Et nous lui avons même directement adressé la parole par la prière, tranquillement. On a parlé à celui qui a créé le monde, comme ça. Souvent, on oublie un peu le privilège extraordinaire, le miracle que ça représente. Et parfois, je me mets à la place de personnes non croyantes. Et ils doivent se dire, effectivement, lorsqu'ils viennent dans une rencontre comme celle-ci, bah, dis donc, c'est quand même un petit peu spécial. Ils parlent à quelque chose qui, peut-être, selon eux, n'existe pas. À quelqu'un, plutôt, qui, selon eux, n'existe pas. Et en fait, si Dieu n'existait pas, quelle folie, finalement. On est presque prêt pour l'asile. Hein. On s'assoit, on se lève, on se rassoit, on adresse des paroles à du vent. Mais justement pas. Si nous ne sommes pas convaincus de la réalité de ce que nous disons et espérons, on est vraiment en train de perdre notre temps. En revanche, s'il existe un Dieu qui nous aime et qui prend plaisir en notre relation avec lui, qui souhaite que nous lui parlions et qui a des choses à nous dire aussi, alors c'est un privilège immense de s'adresser à lui, de le prier, et ce serait tragique, et c'est tragique de ne pas le faire. Alors je sais que la foi n'est pas un long fleuve tranquille, il y a parfois des remises en question, des doutes. On a le sentiment que notre foi est bien faible. Et Dieu sait cela. Et il nous donne son esprit qui nous aide dans ces moments difficiles à entendre sa voix, à nous rappeler ses promesses, à vivre pleinement notre relation avec lui. Nous avons aussi besoin les uns des autres pour nous encourager à tenir bon dans la foi, pour nous aider lorsque ça va moins bien. Mais ce que l'auteur aux Hébreux nous dit, en tout cas ici, c'est que la foi, ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose d'un peu vague, d'un peu flottant. Ce n'est pas un simple sentiment qui est là ou qu'on n'est pas là et puis on n'y peut rien. La foi concerne la réalité des choses. Et la foi en Dieu concerne la réalité de ce qu'il y a de plus important, de l'existence de Dieu qui il est et ce qu'il souhaite pour nous, ce qu'il désire pour nous. Et personne ne peut prétendre ne pas être concerné par cette question. Si Dieu existe, et s'il est un Dieu personnel, comme nous le croyons et que nous l'affirmons, ça change tout, et ça change tout pour tout le monde. Et justement, je passe au verset 2, la foi, ça change la vie. C'est par elle, par la foi, que les anciens ont reçu un bon témoignage, nous dit l'auteur. Alors deux questions se posent d'emblée. Qui sont ces anciens ? Et de quel témoignage s'agit-il ? Alors les anciens tout d'abord. En fait, la suite du texte nous l'indique assez clairement. Ce sont des personnages célèbres de l'Ancien Testament et de l'histoire d'Israël. La lettre aux Hébreux, d'ailleurs comme son nom l'indique, a été écrite en premier lieu à des personnes d'origine juive, des Hébreux. Elle a été écrite aussi par un auteur juif, ça ne fait quasiment aucun doute, quand on voit ses références, sa façon de réfléchir, de présenter les choses. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que le texte ne s'adresse qu'à des Juifs, loin de là. Il s'adresse à nous également, au-delà, selon l'inspiration de Dieu. Mais son premier lectorat, c'était des chrétiens d'origine juive. Et donc, il n'est pas étonnant que cet auteur utilise des exemples tirés de l'Ancien Testament et de l'histoire d'Israël pour illustrer son propos. Soit dit en passant, l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël, nous concerne tous, parce que, en tant que croyants de la Nouvelle Alliance, nous héritons aussi des promesses de Dieu qui ont déjà été adressées au peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Mais c'est donc particulièrement parlant pour des personnes qui viennent de cet arrière-plan directement. Et il va citer des noms illustres, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Moïse, Rahab, etc. Et il va montrer pour chacun de ces personnages en quoi la foi a transformé sa vie, en quoi la foi a guidé ses décisions. Mais ce qu'on observe pour l'ensemble des exemples donnés par l'auteur, c'est ceci. C'est que ces héros de la foi, comme on dit souvent, ces héros de la foi dont parle l'Ancien Testament, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils ont été prêts à abandonner la facilité et à prendre des risques parce qu'ils étaient convaincus de la réalité et de la puissance de Dieu. Parce qu'ils étaient convaincus de la réalité des choses en lesquels ils ont placé leur espérance. La foi, on le voit dans tout ce chapitre 11, c'est quelque chose que l'on vit. C'est quelque chose qui transforme la vie. Ça transforme nos choix, ça transforme nos priorités, parce que par elle, par la foi, nous sommes convaincus qu'il y a une autre réalité que ce que nous pouvons simplement voir de nos yeux. Il y a autre chose qui est réelle et qui est plus important encore. Et cette autre réalité, plus profonde, plus fondamentale encore, c'est celle de Dieu. Les anciens dont parle l'auteur, ce sont des personnes comme les autres. On voit d'ailleurs, quand on lit les textes qui concernent, c'était des gens bien imparfaits, mais des gens qui ont misé leur vie sur Dieu. Un Dieu bien réel, pas imaginaire. Et en conséquence de cette vie transformée, ils ont reçu, nous dit notre auteur, un bon témoignage. Alors quel est ce bon témoignage ? Un bon témoignage, ça peut être quelque chose de tout simple dans la vie courante. Si vous allez au cinéma et vous voyez un film qui vous a énormément plu, il y a de bonnes chances que vous en donniez un bon témoignage. C'est très courant, quand on va voir un film qu'on aime bien, on ressent le besoin de le conseiller. Ou alors, si vous écrivez une lettre de recommandation pour quelqu'un, vous allez donner de lui un bon témoignage. En tout cas, c'est ce que la personne espère. Mais au verset 2, de qui est-ce que ces anciens ont reçu un bon témoignage ? Ce n'est pas dit directement dans le verset 2. Mais on en voit plusieurs indications dans le texte, dans les versets qui suivent. Et notamment au verset 4 et 5, donc je sors un peu du texte de ce matin, mais juste un petit peu plus loin, verset 4 et 5. Voici ce que l'auteur dit d'Abel, l'un des premiers personnages de l'Ancien Testament. « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste. » Et puis à la fin du verset 5, l'auteur nous parle d'Enoch, un autre personnage de la Genèse, et nous dit ceci. « Il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. » Et donc c'est Dieu lui-même qui a donné à ces personnes, de ces personnes, un bon témoignage, parce qu'elles avaient cru en lui. Qu'est-ce que l'auteur est en train de nous dire ici ? En fait, il nous dit ce qu'on lit dans beaucoup d'autres textes du Nouveau Testament, notamment dans les lettres de Paul, mais pas uniquement. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, Dieu nous déclare juste. Ce n'est pas que nous soyons naturellement justes, nous ne le méritons pas, nous sommes pécheurs, mais si nous reconnaissons notre besoin de Dieu et que nous décidons de lui confier notre vie, il se réconcilie à nous, il nous réconcilie à lui, et il nous considère comme justes à ses yeux, au nom de la justice de Jésus-Christ, qui s'est substitué à nous devant Dieu. C'est ça que ça nous montre. Ce que ça nous montre, c'est que cette foi dont il est question au verset 1, cette réalité de ce qu'on espère, cette attestation de choses qu'on ne voit pas, non seulement elle transforme notre façon d'agir et de vivre, mais plus fondamentalement encore, elle transforme notre identité et notre relation avec Dieu. Nous aussi, nous pouvons recevoir de Dieu un bon témoignage, nous pouvons être désignés par Dieu comme quelqu'un qui est juste à ses yeux, en vertu de la justice de Christ bien sûr, quel que soit notre passé, quel que soit même notre présent, déclaré juste pour la simple raison que nous avons placé notre confiance en Dieu. Ce n'est pas un mérite de placer notre confiance en Dieu. Ça revient simplement à reconnaître que justement, on n'y arrive pas par nous-mêmes et qu'on a besoin de confier notre vie à Dieu. Et puis c'est Dieu lui-même qui nous guide et qui nous ouvre les yeux pour que nous fassions cela. Tout cela est par grâce, bien entendu. Mais cette foi que nous plaçons en Dieu nous permet de recevoir la bénédiction de la réconciliation avec lui. La foi, c'est reconnaître, la foi en Dieu, reconnaître non seulement qu'il existe, comme dit Jacques, tu crois que Dieu est un, tu fais bien, les démons aussi le croient. Simplement dire Dieu existe, c'est pas ça la foi. C'est reconnaître que Dieu désire entrer en relation avec lui et que nous avons totalement, absolument, désespérément besoin de cette relation. Et la foi, c'est reconnaître, au-delà de ce que je peux voir de mes yeux, la réalité de ce Dieu qui me connaît parfaitement, qui m'aime, et qui m'appelle à vivre une vie nouvelle avec lui. Et au verset 3, l'auteur nous indique quel est le point de départ de cette foi. C'est le discernement du Dieu créateur derrière la réalité de l'univers. Troisième et dernière partie, donc la foi discerne le créateur. Ça vaut la peine, je pense, de relire le verset 3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. C'est du solide, cette phrase. Elle n'est peut-être pas évidente à saisir au premier abord. C'est un peu plus facile dans la version qui a été lue tout à l'heure. Mais on va essayer de la comprendre. Alors tout d'abord, quand l'auteur parle des mondes, la Nouvelle Bible Second fait un petit peu d'excès de zèle là. C'est vrai que dans le texte original, c'est un pluriel, mais c'est une façon simplement de dire l'univers. Les mondes, c'est-à-dire les cieux et la terre, l'univers tout entier. Dieu comme créateur donc de l'univers. Donc l'auteur en fait nous dit ici, si je reformule un petit peu, par la foi nous comprenons que l'univers a été formé par Dieu. Donc là, on comprend déjà un petit peu mieux. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste, c'est-à-dire de ce qu'on voit. Ce qu'on voit ne provient pas de ce qu'on voit. Autrement dit, encore une fois, ce qu'on peut voir de nos yeux n'est pas là par hasard, mais vient de choses que l'on ne voit pas. Et là, on voit le lien avec le verset 1. Verset 1, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Eh bien, puisque la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas, eh bien, le point de départ de la foi, c'est croire qu'il y a un créateur qui est à l'origine de l'univers. Parce que ça change tout de croire qu'il y a un créateur à l'origine de l'univers. Je vais prendre un exemple tout bête, hein, les chants que nous avons chantés tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils ont été composés par quelqu'un. Alors, je n'ai pas assisté en fait à leur composition, je ne sais pas forcément comment ça s'est passé très concrètement. Et pourtant, je suis certain qu'ils trouvent leur origine dans l'imagination et dans les compétences d'un artiste. Parce qu'ils n'ont pas pu apparaître comme ça par magie. On trouve dans ces chants une logique, on trouve un motif, on trouve des idées qui sont exprimées, et un reflet aussi des émotions et de la réalité vécue par leur créateur. D'ailleurs, l'idée même que ces chants aient pu survenir de nulle part, vous êtes d'accord avec moi que c'est complètement inconcevable, c'est complètement absurde. On a déjà vu que pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la foi, c'est l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Je n'ai pas vu, mais je crois parce que cette réalité s'impose à moi comme évidente, au vu de ce que je vois. Et bien dans la Bible, la création de l'univers en fait est présentée de manière semblable. Pour l'apôtre Paul, par exemple, au début de la lettre aux Romains, il nous dit qu'il y a dans l'univers visible toutes les informations dont nous avons besoin pour reconnaître l'œuvre du Créateur. Non pas pour connaître personnellement le Créateur, il a fallu pour cela qu'il se révèle à nous, mais pour reconnaître l'œuvre d'un Créateur. Et dans cette conception biblique, et on le voit aussi dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, il est absurde de nier l'existence du Créateur. C'est aussi absurde que de nier l'existence d'un compositeur pour les chants que nous avons chantés tout à l'heure. Alors vous me direz peut-être, pourtant il y a des gens très intelligents qui ne croient pas en un Créateur. Et même ceux qui croient en un Créateur ne sont pas toujours d'accord sur l'identité et la nature de ce Créateur. Et effectivement. Mais selon la Bible, si les hommes ne croient pas, c'est pas parce que Dieu ne s'est pas assez révélé. C'est parce que l'homme s'est totalement détourné de Dieu, et y compris par son intelligence. Même l'intellect de l'homme est rebelle. Et nous avons tendance à adorer des idoles en tout genre plutôt que de reconnaître le Créateur, qui pourtant s'est amplement fait connaître par ses œuvres. L'apôtre Paul va écrire en Romains 1,18 « Ce qui est invisible chez Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient très bien depuis la création du monde, quand l'intelligence sait le reconnaître dans ses ouvrages. Les hommes sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. » Donc qu'est-ce qui permet de sortir de cet aveuglement généralisé? Parce que nous aussi, nous avons connu à un moment ou à un autre cet aveuglement. Eh bien, selon le verset 3 de notre texte, c'est la foi, justement. Par la foi, nous comprenons. Paul avait dit, quand l'intelligence sait le reconnaître dans ses ouvrages. Et l'auteur aux Hébreux nous dit, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. La foi nous permet de voir derrière la réalité visible une autre réalité, plus fondamentale encore, qui est invisible. La réalité du Créateur, la réalité de Dieu. Et c'est là le point de départ fondamental de la foi. À partir du moment où je reconnais que le monde autour de moi il n'est pas là par hasard et que moi, qui suis créé également, je ne suis pas là par hasard, mais que j'ai été voulu par Dieu, eh bien, je vais être conduit à voir que l'essentiel de ma vie, ce qu'il y a de plus important avant toute autre chose, c'est de connaître ce Créateur, de savoir pourquoi il m'a créé et ce qu'il veut de moi. De savoir aussi comment je peux entrer en relation avec lui. Et la réponse biblique à cette question, évidemment, c'est Jésus-Christ. Celui que Dieu a envoyé pour que nous puissions revenir à lui, pour que nous puissions entrer en relation avec lui. Toute cette lettre aux Hébreux est consacrée à la personne de Jésus-Christ. Elle est centrée vraiment sur Christ et elle nous aide à comprendre pourquoi la connaissance de Jésus-Christ, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Donc la foi dont il est question dans ce texte, ce n'est pas une foi en n'importe quoi. Souvent on entend dire, l'important ce n'est pas en quoi ou en qui on croit, c'est de croire. Il n'y a rien de plus faux que ça. C'est absolument capital et crucial de savoir justement en qui on croit. Je sais en qui j'ai cru, nous dit l'apôtre Paul, dans la seconde à Timothée, si je ne me trompe pas. Dans l'une des deux lettres, en tout cas, à Timothée. Je sais en qui j'ai cru. Et ça change tout. Celui qui a créé le monde, celui qui a l'origine de toute chose, il m'a créé moi, il m'a voulu, il m'aime, il veut me connaître. Et pour reconnaître qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous, eh bien, il y a quand même un préalable qui est de reconnaître que le monde existe parce que Dieu l'a créé par son autorité et parce que Dieu l'a voulu. Vous savez, j'ai entendu parler de quelqu'un récemment qui disait croire en Dieu, mais que Dieu n'avait pas créé le monde. C'est quand même étonnant comme idée, j'avais jamais entendu ça. Donc oui, Dieu existe, mais ce n'est pas lui qui a créé le monde. Très particulier. Et la parole nous dit au contraire que celui qui veut nous connaître, celui que nous prions, c'est celui qui a l'origine de toute chose. Le fait même que Dieu ait créé l'univers doit nous mener à nous tourner vers lui. Et c'est justement cela qui est rendu possible par la foi en Jésus-Christ. La foi, donc, si vous me permettez l'expression, c'est pas du pipeau. C'est pas non plus un petit sentiment tout chaud dans mon cœur. La foi, ça repose sur la réalité. Une réalité qui ne dépend pas de moi. C'est ça aussi qui est libérateur lorsqu'on a des moments de doute, de difficultés spirituelles, c'est de savoir que le fait que j'ai du mal à croire en ce moment, ça ne change pas la réalité de Dieu. La foi ne dépend pas de moi, elle dépend de Dieu lui-même. Elle change la vie et avant toute autre chose, elle me permet de comprendre que je suis aimé, désiré par celui qui a créé tout l'univers et qui nous a créés nous aussi. Je vous invite à la prière.